Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Gardien d'immeubles appréciés, mais aussi pervers, diabolique et retors, qui n'avait pas hésité à récupérer un préservatif usagé pour brouiller les pistes après son dernier crime, le viol et le meurtre d'une jeune habitante de son immeuble.
Bonjour, Jean-Luc Caillez était le paisible concierge d'une résidence de l'Essonne, toujours prêt à rendre service. Les habitants disaient de lui qu'il avait le cœur sur la main. Jusqu'à cette fin d'été 2005 où les gendarmes sont venus l'interpeller dans sa loge, soupçonné d'avoir attaqué et tué Audrey Joannet, une jeune résidente de 24 ans. Va alors apparaître la trajectoire de cet homme, un violeur récidiviste, habité par la violence et la volonté de posséder les femmes. Un pervers qui a calqué le scénario de son crime sur un épisode de série télé américaine. Un plan d'une ingéniosité machiavélique qui a bien failli fonctionner. Les enquêteurs et les psychiatres vont longuement s'interroger sur le personnage. Qui est donc ce dissimulateur qui semble si satisfait d'être arrivé à ses fins? Pourquoi disait-on de cet homme sans pitié qu'il était devenu inoffensif? Question posée à nos invités.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Dans l'heure du crime, nous revenons aujourd'hui sur le viol et le meurtre à la fin de l'été 2005 dans l'Essonne d'Audrey Joannet, une jeune femme de 24 ans. Une attaque sauvage derrière laquelle va apparaître au fil des jours le visage familier et amical du concierge. Jeudi 15 septembre 2005, les amis d'Audrey Joannet sont surprises de ne plus avoir de ses nouvelles. Les copines devaient pourtant se rappeler pour organiser une sortie, mais Audrey ne répond pas. Les appels échouent sur sa messagerie. Audrey travaille normalement à Londres dans un restaurant, mais elle est en ce moment en France. Elle occupe seule un appartement au deuxième étage du domaine de Gerville, une résidence tranquille à Soisy-sur-Seine dans l'Essonne. Une des copines se rend sur place, sonne à l'interphone, aucune réponse. Au deuxième étage, les rideaux sont tirés. La Peugeot 206 d'Audrey est sur le parking, impossible d'entrer dans le logement. Une voisine qui a normalement un double des clés ne retrouve plus le trousseau. Il a mystérieusement disparu. Le gardien, Jean-Luc Caillez, est alerté. Il n'a pas les clés, mais propose de laisser le mot suivant sur la porte. Mademoiselle Joannet, joindre la police municipale à votre retour. Inquiétude des proches. Signé Monsieur Caillez, le gardien. 17 septembre, Marie-Antonia Joannet, la mère d'Audrey, qui habite à une centaine de kilomètres de Soisy-sur-Seine, est alertée de l'absence de sa fille. Elle arrive à la résidence avec les clés. Le logement est vide. Les valises d'Audrey ne sont pas défaites. Son ordinateur traîne sur le canapé. Personne dans la chambre. Marie-Antonia Joannet quitte les lieux, mais a un pressentiment. Elle y revient. Dans la nuit, elle regarde sous le lit. Il y a là le corps nu de sa fille. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» demande la maman, avant de comprendre qu'Audrey est morte. À 1h45, la gendarmerie est alertée. Dimanche 18 septembre 2005, lendemain de la découverte du corps, les légistes indiquent qu'Audrey Joannet a été étranglée avec un lien. Des traces sont clairement visibles autour du cou. Elle présente aussi des ecchymoses sur les bras et les avant-bras. Elle s'est défendue. La victime a été ligotée aux poignets, aux chevilles, bâillonnée avec de l'adhésif. Elle a été violée. Des traces de sperme sont retrouvées et confiées au laboratoire, tout comme un ticket de caisse sur lequel figure une tache de sang. Le 7 octobre, une analyse toxique psychologique indique que l'organisme de la jeune femme présente des traces de sédatifs, de somnifères, produits destinés à neutraliser sans doute sa vigilance. Les gendarmes de la section de recherche de Paris multiplient les auditions auprès des proches d'Audrey. Sa grande sœur Karine la dépeint comme une fille pleine de vie. Sa mère la décrit comme une enfant adorable, intelligente, spontanée, qui aime le contact avec les autres. Les enquêteurs sont intrigués par le comportement du gardien de l'immeuble, Jean-Luc Caillez, 48 ans. Ce célibataire se met en quatre pour les aider. Un résident, il a confié qu'il menait sa propre enquête et qu'il fallait vraiment retrouver le salaud qui a fait ça. Les gendarmes apprennent que le 14 septembre, trois jours avant la découverte du corps, Caillez était soudain invisible. Les résidents ont tambouriné à la porte de sa loge, mais sans succès. Les pompiers ont été appelés, ils ont actionné leur sirène. Le gardien a alors entrebâillé sa porte pour indiquer que tout allait bien, il n'avait pas besoin d'aide, il était tout simplement fatigué. Les enquêteurs s'aperçoivent que cet ancien légionnaire a un casier judiciaire chargé. C'est un violeur, récidiviste, condamné à 7 ans de prison en 84, puis 20 ans pour un deuxième vol en 91, en liberté depuis 3 ans sans suivi médical. Il y a quelques mois, une habitante de la résidence a porté plainte contre lui. Elle l'avait surpris alors qu'il pénétrait chez elle. 20 septembre, 9h15, Jean-Luc Caillez est interpellé, en garde à vue. Il nie. Après 24 heures d'interrogatoire, tout se complique pour les enquêteurs. Avec le résultat des tests ADN, le labo leur apprend que le sperme retrouvé sur la victime n'est pas celui du suspect, mais il appartient à un autre homme, un ADN inconnu. Et là, on va voir comment les enquêteurs vont réagir à cette nouvelle, car si l'ADN de Caillez n'est pas celui de la scène de crime, alors le concierge pourrait être mis hors de cause. Dans la suite de l'émission, on va suivre ces dernières heures de garde à vue qui vont se révéler capitales. Restons pour le moment derrière les murs du domaine de Gerville, au deuxième étage de cette résidence. Bonjour Cécilia Catalano.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes réalisatrice en chef chez Tony Comiti et vous avez réalisé un excellent épisode de l'émission Indice sur cette affaire.
Merci.
Je l'ai visionné évidemment, le calvaire de l'étudiante, c'est l'affaire Jouannet, et l'épisode qui est disponible sur rmcbfmplay.com. Voilà, si on veut retrouver cet épisode, mais ça vaut le coup d'aller le visionner. Cécilia Catalano, il y a cette scène. On ne sait pas trop si c'est une scène de crime, en fait. Le corps a été dissimulé sous le lit. On sait qu'il y a une mise en scène, en tout cas.
Bah, on peut surtout se dire que le coupable, le violeur, celui qui a tué Audrey Jouannet, a voulu retarder un certain nombre de choses, et évidemment la découverte de son corps. Alors, retarder comme il a pu, hein, parce qu'il a
bien sûr
pu cacher le cadavre d'une manière voilà, incroyable. Mais effectivement, oui, il a voulu retarder le moment où on allait découvrir son corps.
Il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'effraction. L'appartement, il semble en ordre. On se dit que c'est quelqu'un qui a les clés, un familier à qui elle a ouvert.
Un proche, oui. Ça, c'est c'est souvent le cas, hein, dans les affaires de meurtre, de manière générale. Et effectivement, l'absence de traces d'effraction permet d'orienter vers cette hypothèse. Alors, on verra par la suite qu'en réalité, ça fait partie, quelque part,
du mode opératoire,
du mode opératoire et de la mise en scène.
Oui. Le corps d'Audrey est nu, elle a été violée, on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'ils sont assez sordides, ces détails, pas question de faire ça aujourd'hui. Le corps d'Audrey est nu, et il semble qu'il a été nettoyé, on a effacé les empreintes partout à cet endroit, même si on retrouve effectivement du sperme.
Effectivement, c'est très méticuleux. C'est-à-dire que là, on peut imaginer qu'on n'est pas dans une pulsion. Bon, déjà, à l'absence de traces d'effraction, etc. Enfin, voilà, on est dans un acte qui a été pensé, qui n'est pas. On n'est pas dans un crime a priori d'opportunité. Voilà, un rôdeur, une mauvaise rencontre. On est dans quelque chose qui a été réfléchi. Et c'est d'autant plus glaçant car effectivement, la pauvre Audrey Jouannet a vécu, a été
un calvaire.
Un calvaire. C'est un calvaire. Barbare.
D'ailleurs, les légistes vont bien s'apercevoir qu'il y a des traces de coups, qu'il y a des blessures qui sont infligées. On l'a étranglée. Il y a du sparadrap. Elle a été manifestement séquestrée. Il n'y a pas de doute pour les légistes.
Et maintenue en vie aussi par celui qui l'a torturée et lui a infligé des sévices véritablement innommables.
Alors, encore une question, Cécile. Via Catalano, on est dans une résidence tranquille, Soisy-sur-Seine, c'est un petit immeuble, tout le monde se connaît, et cette famille Jouannet, d'ailleurs, on la connaît, puisque ça leur appartient, cet appartement. On se demande ce qui s'est passé, parce que personne n'a rien vu, rien entendu.
Alors, personne n'a rien entendu, c'est pas tout à fait vrai.
D'accord.
Il y a eu des voisins qui ont entendu, dans la nuit du 13 au 14, des cris de femmes, vers 4 heures du matin. Mais ça, ils ne l'ont dit qu'au gardien de l'immeuble. Voilà, donc c'est évidemment, les enquêteurs vont s'en rendre compte, mais rien entendu.
Ils l'ont rapporté au gardien de l'immeuble, ils ont entendu des cris, c'est ça ?
Oui, effectivement. Dès le lendemain, dès le 14 septembre, des gens qui ont dit au gardien de l'immeuble qu'il y avait eu ces cris de femmes à un moment donné, et ça... Jean-Luc Caillez ne s'est pas empressé de le dire aux gendarmes.
Alors oui, parce que les gendarmes, évidemment, ils s'intéressent à ce personnage. Jean-Luc Caillez, c'est le gardien de la résidence, c'est le concierge. Bonjour, maître Laurent-Franck Liénard. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Paris et on vous connaît bien évidemment, vous avez de nombreux dossiers en cours. Vous êtes dans cette affaire l'avocat de la famille d'Audrey Jouanet et notamment de la maman et de sa sœur. Et puis je cite votre dernier livre, Avocat des flics, publié aux éditions du Nouveau Monde. Alors dans cette affaire ce ne sont pas les flics mais ce sont les gendarmes qui s'occupent du dossier. Tout de suite, il s'intéresse à cet homme. Pourquoi ? Parce qu'il a un profil un peu particulier ?
Alors non, ce qui est amusant, c'est que, amusant si on peut dire, c'est que c'est plutôt le gardien d'immeuble qui s'intéresse aux gendarmes. Il est dans leurs pattes, les gendarmes arrivent, commencent à faire leurs investigations, les constatations, et le gardien est omniprésent, et il va au-devant d'eux en leur disant « De toute façon, vous allez vous intéresser à moi parce que j'ai un casier ».
Ah, c'est lui qui...
Et donc c'est lui qui dit ça.
Ah bon, d'accord. Ouais.
Et les gendarmes à ce moment-là sont un peu interloqués et Caillez dit oui, j'ai un casier de violeur. Et le directeur d'enquête lui répond du tac au tac et assez brutalement, je cherche pas un violeur, moi je cherche un tueur ici. Mmh. Et tout de suite ils comprennent qu'il y a un truc qui va pas. Il y a pas de raison sur une scène de crime avec un mort que quelqu'un arrive en disant j'ai un passé de violeur, donc ça peut être moi.
Il prend les devants. Et il prend les devants parce que de toute façon il sait que le casier il va être examiné un jour ou l'autre, c'est une évidence. Et ce casier il est chargé, maître Liénard.
Alors, il est très chargé parce que il a deux condamnations pour viol avec acte de torture et de barbarie, les deux. Et il a, dans les deux affaires où il a été condamné quand même assez lourdement, la dernière fois 20 ans, il ne fait que 12 ans, mais avec un rapport psychiatrique qui dit que la récidive est certaine.
Ah, le rapport est formé là-dessus.
Dans les deux affaires, les deux experts psychiatres qui se sont penchés sur Caillez ont tous les deux dit la récidive est certaine. Mmh. Elle est plus que probable. Et donc, on a un profil qui est quand même vraiment très très inquiétant. Et c'est vrai que ce gars-là, quand il arrive auprès des gendarmes en disant vous allez vous intéresser à moi, il y a quelque chose qui cloche évidemment. Mais on comprendra pourquoi il va vers les gendarmes. C'est parce qu'il pense que les preuves matérielles qu'il a fabriquées lui-même le dédouane totalement, notamment l'ADN.
Donc il est tranquille.
Il est tranquille.
Il affiche un visage tranquille.
Et il est impatient qu'on fasse la recherche.
Un suspect qui est en garde à vue, l'ADN n'est pas le sien. Les gendarmes vont donc abattre leur dernière carte. Mercredi 21 septembre 2005, deuxième jour de garde à vue de Jean-Luc Caillez, les gendarmes sont face à un dilemme. Ils étaient persuadés que le sperme retrouvé sur le corps de la victime était celui du suspect, mais ce n'est pas le cas. On a pris un vrai coup de bambou sur la tête, il nous restait 24 heures pour le faire avouer. Plus beaucoup de temps, sous peine de devoir le libérer, se souvient un enquêteur dans le journal Le Parisien. Caillez n'est pas informé des résultats des tests ADN. On l'interroge sur les découvertes faites chez lui. Plusieurs paires de gants, des rouleaux d'adhésif entamés, une longue corde ou encore un livre, L'étrangleur masqué, signé Michael Prescott, l'histoire d'un criminel sexuel qui entre dans les appartements de femmes et les assassine. Caillez finit par avouer qu'il a tué Audrey Jouanet. Il avait tout prévu. Dans la nuit du 13 au 14 septembre, à 4 heures du matin, il est monté chez la jeune femme. Il avait le double des clés, trousseau volé chez la voisine. Mais la porte était bloquée par la sécurité. Il a frappé en disant « C'est moi, ouvre !» Audrey est apparue, à moitié endormie. Il a mis un coup d'épaule, il l'a poussée dans la chambre, lui a attaché les mains dans le dos, l'a déshabillée et a tenté d'abuser d'elle. Il était cagoulé, ganté, armé d'un fusil à canoncier et d'un couteau. Vers 6h15, il a entraîné la jeune femme sous la menace du fusil jusque dans sa loge. Il l'a gardée toute la journée. Audrey, qu'il avait reconnue, a été bâillonnée. Il a continué à lui faire subir des sévices quand il a reçu un message d'un résident demandant pourquoi le courrier n'était toujours pas dans les boîtes aux lettres. Il s'est demandé « Qu'est-ce que je vais faire si je ne la tue pas ?» C'est la prison. Il l'a étranglée avec une corde à sauter. Jean-Luc Caillez, très bavard, explique avoir pris toutes les précautions pour ne laisser aucun indice. Il a tué Audrey Jouanet dans sa loge et non chez elle. Il a pris soin de lessiver le corps avant de le ramener dans l'appartement. Pour le sperme masculin retrouvé sur la jeune femme, il s'est inspiré de la série télévisée américaine NCIS qui met en scène des experts de police scientifique. Chargé du local poubelle, il a récupéré quelques jours avant le meurtre le préservatif usagé d'un résident et l'a congelé avec une seringue. Il a dispersé quelques gouttes sur le corps de la victime. Si Caillez avait été libéré à l'issue de sa garde à vue, le sperme aurait fatalement conduit au voisin, lequel aurait certainement fait l'objet de toutes les suspicions. C'est diabolique, quasiment imparable, dit un magistrat. Suivant les indications de l'ancien légionnaire, les gendarmes retrouvent dans la scène les vêtements d'Audrey, des draps, des cagoules, des gants, des liens. Après ses aveux, Jean-Luc Caillez déclare « C'est mieux que vous m'arrêtiez maintenant, car je pense que, malheureusement, j'aurais recommencé de tels actes. » Jeudi 22 septembre, la juge d'Evry, Catherine Larminia, met en examen Jean-Luc Caillez pour viol, acte de barbarie, récidive et homicide volontaire. Le procureur Jean-François Pascal se félicite de cette enquête qu'il présente comme exemplaire. Il évoque la personnalité complexe et très inquiétante du meurtrier présumé. Le lieutenant-colonel Jean-Philippe Guérin estime que Caillez a gravi les échelons de la dangerosité. Passé de voleur à violeur, puis à meurtrier. Lors des deux premières affaires de viol, il avait été reconnu par ses victimes, mais leur avait laissé la vie sauve. Là, il a choisi de tuer, précise le gendarme. Au domaine de Gerville, les résidents sont accablés par ce dénouement. Tout le monde connaît ici la famille Joannet. On est encore abasourdi par l'arrestation de ce concierge qui s'occupait des fleurs, toujours prêt à rendre service. Dans les jours qui ont suivi le meurtre, on l'a vu vaquer à ses occupations habituelles. Le jour de la découverte du corps, il m'a dit que les gendarmes étaient chez lui car ils avaient trouvé un cheveu blond. Il se comportait comme si de rien n'était alors que c'était lui. J'en ai froid dans le dos, commente une habitante. Jean-Luc Caillez est arrêté, il a beaucoup parlé aux enquêteurs, puis face à la juge, mais a-t-il tout dit? Rien de moins sûr. Et puis pourquoi ce récidiviste doublement condamné était-il alors dans la nature? On va répondre à ces questions dans la suite de l'heure du crime. Maître Laurent Franck-Liénard, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, avocat au barreau de Paris, et dans cette affaire, vous défendez les intérêts de la famille d'Audrey Joannet. Alors, on va en parler tout de suite, mais c'est extraordinaire cette histoire d'ADN. Il a tout prévu, il a pris un ADN étranger finalement, retrouvé dans une poubelle, il l'a congelé et il l'a placé sur le corps, tout ça pour aiguiller vers un autre homme. C'est diabolique, le terme est parfois un peu très usité, mais c'est diabolique.
Alors c'est totalement machiavélique et c'est très intelligent. Il ne vole pas l'ADN d'un voisin, il vole l'ADN, un préservatif plein, d'un homme de passage qui vient voir sa maîtresse, qui est un homme marié. Et deux fois, il va voler un préservatif. La première fois, ce préservatif va être utilisé sur Audrey Joannet, mais après le meurtre d'Audrey, il va voler un deuxième préservatif du même sperme, du même homme. C'est-à-dire que son but était de tuer les deux femmes en mettant dans les deux corps le même sperme, celui de cet homme de passage qui venait voir sa maîtresse.
C'est extraordinaire.
Et donc on aurait trouvé deux cadavres avec ce sperme. Il n'aurait pas eu d'alibi puisque les deux soirs, il était là. Et homme marié qui trompe sa femme, donc menteur invétéré, il n'aurait eu comme soutien que celui de sa compagne qu'il venait voir occasionnellement et qui aurait pu dire qu'il était effectivement là le soir des faits. Il était totalement indéfendable, ce garçon, et il aurait été condamné sur la base du sperme retrouvé.
Ou en tout cas inquiété.
Oh, très très inquiété et avec de fortes présomptions, il aurait été condamné sans pouvoir se défendre utilement, puisque il y avait deux cadavres, il y avait deux fois son sperme. Et c'était machiavélique de la part de Caillez,
oui,
imaginez ça.
C'est tout à fait malicieux, effectivement. Il a pu s'inspirer d'une série télé, NCIS. Il a lu beaucoup aussi de documentation là-dessus, sur comment truquer un crime, etc. Mais bon, là, effectivement, c'est un cas de figure qui est extrême et presque réussi. Cécilia Catalano, vous êtes réalisatrice en chef chez Tony Comiti. Et je rappelle que vous avez réaliser un épisode de l'émission Indice sur cette affaire. On a quand même le sentiment que il attendait un peu cette interpellation Caillez. Il s'est montré aux gendarmes Alors, je ne vais pas dire qu'il est soulagé, parce qu'on dit toujours ça, parfois les gens sont soulagés, mais il va dire, heureusement que vous m'avez arrêté, parce que sinon j'allais recommencer.
Oui, alors ça c'est une fois qu'il a avoué, parce que
on est d'accord.
Il a quand même nié, et effectivement il s'est préparé à ça.
Et il a fallu attendre 24 heures pour qu'il avoue. Hein.
Il a fallu attendre 24 heures, et je me permets une petite digression, il a fallu aussi le concours, l'aide de Marie-Laure Brunel, de l'IRCGN, qui est aujourd'hui à la tête de la cellule Diane, qui est la première profileuse de France. À l'époque, elle est toute petite, elle vient de débarquer à l'IRCGN, donc voilà, les experts de la gendarmerie font un travail formidable, et elle intervient sur ce dossier, alors de manière très officieuse, hein, la cellule n'est pas encore constituée.
Elle regarde, c'est ça ?
Elle est à l'extérieur. Donc, quand les résultats ADN tombent, est-ce qu'on le relâche, est-ce qu'on ne le relâche pas ? Une garde à vue, hein, bon, il y a un temps limité. Donc, est-ce qu'on le relâche pour après, éventuellement, le réinterroger avec d'autres éléments ? La question se pose, voire même, ils sont un peu... les enquêteurs qui l'auditionnent sont un peu poussés. On leur demande plutôt de le relâcher. Et Marie-Laure Brunel, elle va avoir une idée. Elle a remarqué que Jean-Luc Caillez a des rapports très conflictuels avec sa mère. Voilà, une histoire... Bon, je ne suis pas psy, mais...
De famille, enfin, voilà.
Oui, on va dire que, il a un peu peur de sa mère. Et depuis le début, il dit toujours qu'il vous voit, mademoiselle Joannet. Voilà, c'est le mot sur la porte, mademoiselle Joannet. Est-ce que vous ? Puis, ils vont un peu le pousser dans ses retranchements, en disant, mais votre mère, elle dit que quand vous lui parlez, mademoiselle Joannet. Et puis, à cette occasion, vous la tutoyez, mademoiselle Joannet. Elle dit, non, c'est pas vrai. Bon, c'est pas vrai, monsieur Joannet. Ils vont lui faire croire que sa mère est juste à côté et qu'ils vont les confronter.
Incroyable.
Et là,
incroyable.
Entre sa mère et la tôle, en gros, le mec,
il a choisi.
Il préfère la tôle.
Ah oui.
Et ça, c'est quand même absolument vrai. Donc là, il s'effondre, il avoue, et voilà. Cet aveu-là, c'est une science, hein, l'expertise
dans
le comportement. Mais... Voilà, mais c'est évidemment un travail, mais c'est...
Oui, mais la profileuse a eu l'œil exact et elle a eu le flair. Elle a senti qu'il y avait une faille, ils se sont engouffrés.
Elle a vu la
bonne fonctionné.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est extraordinaire. Maître Laurent Franck-Lénard.
Oui, au moment de ses aveux, Caillez dit aux gendarmes, ok, je vais vous dire, c'est moi. Et donc, les gendarmes, ça change tout, hein, parce que quand il va y avoir des aveux, on fait venir les gendarmes, on fait venir tout le monde, on commence à taper le procès à balle. Et là, Caillez dit, mais je vais vous poser une question, à votre avis, elle est morte quand ? Et donc, les gendarmes disent quand ils estiment l'heure de la mort. Et il les regarde en rigolant, et il dit, non, elle est morte bien plus tard que ça.
Ah.
Ouais. Voilà, c'est pour vous montrer un peu
le degré de sadisme.
Le degré de sadisme et le profil du garçon.
Et le jeu commence, enfin continue.
Le jeu continue.
Alors, question qui m'intrigue pour vous, Maître Laurent Franck-Lénard. Il a tout préparé, cet homme. Il a tout préparé, la seringue avec le sperme, le calcul, les horaires, la porte, le trousseau de clés. Il n'est pas mis en examen pour assassinat ?
Non, on a estimé.
Il n'y a pas de préméditation. Alors là,
on a estimé que le meurtre ne relevait pas de la préméditation, puisque il dit que il s'est trouvé un moment coincé avec sa victime. Il a quand même eu 18 heures avec lui sous son pouvoir. Et au bout de 18 heures, il ne sait plus quoi en faire. Et il dit, si je la relâche, elle va me dénoncer, donc je vais la tuer. Et que c'est donc sans préméditation qu'il l'aurait tuée. Alors qu'en définitive, on sait très bien tous que c'était prévu depuis le départ. Le premier sperme, il le congèle, le deuxième, il ne le congèle pas. Ça veut dire qu'il l'allait utiliser immédiatement après. Il avait véritablement ces deux meurtres qui étaient prévus. Il aurait dû faire l'objet d'une poursuite pour assassinat.
Et que l'issue était fatale, évidemment, ça aurait dû être qualifié un assassinat, je suis bien d'accord. Jean-Luc Caillez va être réentendu sans jamais reconnaître certains actes.
L'accusé n'a pas exprimé de remords, a en fait montré plusieurs visages colériques, arrogants ou pleurant parfois comme un petit enfant. Il a été décrit par les habitants de la résidence comme un gardien gentil et serviable. Comment expliquez-vous ces deux personnages ? Lui a demandé le président. Moi je suis l'accusé, je ne suis pas l'expert, a-t-il répondu. Je sais que je ne suis pas un saint, et alors ?
Vendredi 7 octobre 2005, trois semaines après sa mise en examen, Jean-Luc Caillez confirme ses déclarations devant la juge d'instruction. Il a tué, mais il nie avoir donné des somnifères à Audrey, même si les analyses toxicologiques disent le contraire. Il n'a pas pu violer, dit-il, car un traitement médical l'a rendu sexuellement impotent. Un médecin conteste cette affirmation. Le récidiviste tente encore de minimiser sa responsabilité en précisant qu'il n'a pas été violent avec sa victime. Affirmation réfutée par les légistes. Ils estiment que les coups ou chocs relevés sur le corps d'Audrey Jouanet, traumatisme crânien, traces de défense, ne peuvent pas s'expliquer par une simple chute. 26 juillet 2006, lors de la reconstitution, Jean-Luc Caillez se garde bien de reproduire le moindre geste de violence. Attitude jugée non crédible par un médecin présent à la reconstitution. Le parcours criminel de Jean-Luc Caillez est décrypté. En 1984, il a écopé de 7 ans de prison pour le viol d'une femme de 27 ans sur un parking de Grigny, dans l'Essonne. Les psychiatres avaient alors indiqué qu'il présentait une certaine dangerosité. « J'ai toujours été contre le viol et je ne comprends pas pourquoi j'ai fait cela », avait-il dit avant son procès. À nouveau condamné en 91 pour le viol d'une voisine, il est sorti en 2002. Aucun suivi thérapeutique prévu à l'époque. S'il n'était pas sorti, ma fille serait encore en vie aujourd'hui. Il était libre comme l'air alors qu'il était considéré comme un danger pour la société et pour nos enfants, dira Marie-Antonia Jouanet. Et dans cette heure du crime, on retrouve maître Laurent-Franck Liénard, avocat au barreau de Paris et avocat justement de la famille d'Audrey Jouanet. Maître Laurent-Franck Liénard, il y a cette reconstitution du crime. Comment est-ce que ça se passe? Parce que ça, c'est toujours un moment très important dans la construction d'un dossier.
Alors, ça a été très tendu, parce qu'on se retrouve sur des paliers d'immeubles, devant des portes d'appartements. On est tous les uns sur les autres, et c'est vrai que les regards sont terribles. Et il y a deux faits marquants pendant cette reconstitution. Mmh. Le premier, c'est au moment où l'expert médical va expliquer les traces sur le corps et va dire que ce qu'il a vécu de la reconstitution ne correspond pas à la réalité, puisque il y a évidemment des traces de coups, de violence. Et là, Jean-Luc Caillez va s'énerver très fort. Il va essayer de se lever, de se projeter vers le médecin en lui disant « je te tue, toi, je te tue ». Et donc, il va être tenu par les gendarmes, rassis sur la chaise. Mmh. Mais c'est vrai que là, on va avoir... c'est on-off, Jean-Luc Caillez. Il peut être très gentil, très calme, très souriant. Et tout à coup, il devient une bête féroce. Mmh. Et c'était très impressionnant à voir. Mmh. Et ça nous a tous glacé le sang.
Physiquement, il est comment ?
Physiquement, il est très grand, très fort, il était un peu gros, mais il a une très forte corpulence. On fait pas le poids. Mmh, hein, vraiment, on fait pas le poids. Et la deuxième chose qui nous a beaucoup marqué, c'est quand il a fait le geste d'étranglement. On lui donne un mannequin, on lui donne une corde, et il montre comment il a fait. Donc, il va serrer très fort cette corde, il va serrer le cou du mannequin, et on va sentir qu'il a une vraie jouissance à le faire. Et il le fait, il s'arrête, il souffle, et il dit « Non, c'est pas tout à fait comme ça », et il recommence. Mmh. Et il le fait deux fois devant nous. Et c'est vrai qu'on a tous regardé ça avec effroi, et on s'est dit « ce type-là est véritablement un monstre ».
Qu'est-ce qui vous fait dire jouissance ? Vous avez vu qu'il prenait du plaisir à refaire ses gestes ?
On voyait très clairement qu'il prenait du plaisir à les refaire. Mmh. Très clairement. Mmh. Et c'était long. C'était vraiment très long. Avec sa corde, il serrait. Et on voyait sur son visage, on voyait dans ses yeux qu'il était content.
Ouais, c'est vrai, je suppose qu'il y a un silence et que c'est assez glaçant.
Un silence de mort.
Oui, c'est ça. Dès lors qu'il y a ce genre de scène, dans les reconstitutions, il n'y a pas une mouche qui vole, effectivement. Mmh. Cécilia Catalano, rédactrice en chef chez Tony Comiti, et vous avez réalisé un épisode de l'émission Indice sur cette affaire, l'affaire Jouanet. Les gendarmes vont dire, lors de l'enquête, ils vont dire que cet homme, il n'a aucun remords. Ils ont trouvé quelqu'un qui racontait son histoire, mais qui ne présentait pas de signes de culpabilité ou d'empathie. Qu'est-ce que disent les gendarmes, hein?
C'est ce que disent les gendarmes. Après, c'est... Jean-Luc Caillez, il a une particularité, c'est que c'est un des premiers en France à avoir bénéficié de la castration chimique. Et il l'a demandé spontanément lors de sa précédente peine pour
après
viol.
Après la deuxième condamnation.
Après la deuxième condamnation. Il était condamné une première fois en 84, une deuxième fois en 90. Bref, il a demandé ce traitement-là. Donc, il est... je pense que Maître Linard a raison, c'est-à-dire qu'il y a deux faces chez Jean-Luc Caillez. Il y a le Jean-Luc Caillez qui aurait envie de ne pas être un violeur, manifestement, puisqu'à l'époque, rien ne l'obligeait hein, à prendre ce traitement, et il y a toute une verbalisation autour de ça, et puis il y a une autre face qui est absolument glaçante et terrifiante, et effectivement, cette face très animale, très glaçante de lui, on peut pas se dire que ce type a des remords. Après, il y a aussi la question de, dans le détail, on ne va pas évidemment revenir dans le détail des horreurs qu'il a fait subir à cette pauvre Audrey Jouanet. Maintenant, il y a quand même cette interrogation, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui revient, c'est qu'il dit « je n'arrive pas à jouir, je n'arrive pas à avoir un orgasme », etc. Et il y a une espèce de gradation jusqu'au fait de tuer. Est-ce que la violence dont vous parlez, dont il a fait preuve lors de cette reconstitution, et le plaisir qu'il avait à mimer cette violence physique et cette jouissance qu'il avait à mimer cette violence physique, on peut se demander si ça n'a pas remplacé finalement ses premiers instincts qui étaient des instincts de viol. Mais ça, c'est une problématique qui revient beaucoup en criminologie et je pense que c'est important toujours de le rappeler. Il y a beaucoup plus de violeurs en série que de tueurs en série.
Maître Liénard, il y a une autre petite question. Il est sorti de prison, ça faisait 3 ans, je crois, qu'à peu près qu'il était sorti de prison après sa deuxième condamnation. Il n'y avait pas de suivi à l'époque, c'est ça ?
Oui, il n'y avait pas de suivi médical des violeurs. Et il a bénéficié de remises de peine qui sont incompréhensibles, puisqu'il était condamné à 20 ans en récidive.
Et que vous aviez dit que les psychiatres avaient dit qu'il
était dangereux. Les psychiatres avaient dit récidive certaine. Et donc, il a eu 8 ans de remise de peine, ce qui est véritablement incompréhensible. On a vu qu'il avait changé de lieu de détention, et à chaque fois qu'il changeait de lieu de détention, il avait une nouvelle remise de peine sans comptabiliser celle qu'il avait déjà eue. Donc, au fur et à mesure qu'il changeait de prison, sa peine se réduisait. C'était dramatique.
C'est étonnant.
Étonnant et dramatique. Et avec Madame Jouanet, nous sommes allés au Place Vendôme, nous sommes allés interroger le ministère de la Justice sur cette érosion de peine, et la réponse qui nous a été faite, c'est qu'il fallait faire sortir les gens de prison parce qu'on ne les tenait pas en prison.
C'est une réponse comme une autre.
Mais ça ne nous a pas véritablement satisfait, vous imaginez.
Je suppose, et notamment la maman d'Audrey. 3 ans après le meurtre, Jean-Luc Caillez va se retrouver aux assises. Mercredi 14 mai 2008, Jean-Luc Caillez, 50 ans, silhouette massive, petites lunettes rondes, longs cheveux blancs retenus par un catogan, est devant la cour d'assises de l'Essonne à Évry. Il s'insurge contre la présence de sa mère, malade, citée comme témoin. Il met un coup de poing dans la vitre du box. Caillez est interrogé sur son passé judiciaire et les viols de 2 premières femmes. « Vous n'analysez jamais vos actes ?» demande le président. « Ça vient dans ma tête et ça repart, c'est une obsession », répond l'accusé. Le président dit avoir l'impression qu'il existe chez cet homme 2 personnages qui cohabitent. Une personne sympathique, dit le magistrat, et derrière le monstre, renchérit aussitôt Jean-Luc Caillez. Un des psychiatres qu'il a examiné évoque un individu qui a un besoin permanent d'être au centre de toutes les attentions. Laurent Franck Liénard, avocat de la famille Jouanet, affirme « On a senti qu'il prenait du plaisir pendant l'instruction, comme si l'arrestation, l'enquête, le procès faisaient aussi partie de sa jouissance. » Jean-Luc Caillez reconnaît le meurtre d'Audrey Jouanet, sauf les actes de violence et de torture. Il égrène soudain une confidence qui a tout d'une provocation. Audrey, qui était sa prisonnière, lui aurait dit qu'il lui rappelait son père. « Vous m'avez demandé de dire la vérité, eh bien la voilà la vérité !» s'exclame-t-il. La sœur de la victime quitte la salle, l'avocat de la famille s'insurge. Selon lui, « Tout ce que raconte Caillez est faux, cet homme distille le mal. » 16 mai, après 3h30 de délibéré, Jean-Luc Caillez est condamné au maximum. Perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. La salle applaudit. Le condamné fait 2 doigts d'honneur au public. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités. C'est Maître Laurent Franck Liénard, avocat dans cette affaire de la famille d'Audrey Jouanet. Je l'ai dit, vous êtes à ce procès, Maître Liénard. Quel climat règne sur cette audience? D'abord, je voudrais savoir, vous l'aviez vu à la reconstitution, cet homme-là, cet accusé, est-ce qu'il a changé entre cette reconstitution et cet homme qui se présente devant la cour d'assises?
Non, entre la reconstitution et la cour d'assises, il ne change pas, mais le public ne l'avait pas vu à la reconstitution. Le public, ce sont les gens qui vivaient dans cette résidence, qui avaient l'habitude de côtoyer Jean-Luc Caillez, très propre sur lui, très bien habillé, toujours gentil, souriant. Et quand ils ont vu rentrer Caillez dans le box, c'était un autre homme. Il avait effectivement les cheveux longs, il avait un regard dur, il était plus proche du monstre que l'on décrit que du gentil gardien d'immeuble. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment d'effroi auprès de ces résidents qui se rendaient compte tout à coup que c'était pas le même homme et que celui qu'ils avaient côtoyé comme gardien d'immeuble gentil, c'était juste un uniforme pour le boulot, entre guillemets, mais que sa vraie personnalité, c'était celle du boxe.
Il essaie de dire « j'ai pas été violent », etc. Il tourne un peu autour du pot, puis après il va jouer avec le sadisme aussi.
En fait, il a joué avec nous pendant 3 jours d'audience, comme il avait joué pendant l'instruction, comme il a dû jouer avec Audrey, et c'était insupportable. Véritablement insupportable. Il hurle qu'il ne peut pas bander, et il hurle ça de manière très, très familière, à la limite de l'insulte, et on a dans le dossier l'expertise qui dit qu'il a des fonctions érectiles normales. Il n'a pas de difficulté, ce garçon. Mais il est prêt à vous crier dessus qu'il ne peut pas bander, qu'il ne peut pas tuer, qu'il est gentil. Et si on ose s'opposer à lui, il devient extrêmement violent, effectivement. L'histoire du témoignage de sa mère, il s'est mis à hurler comme une bête féroce. Il tapait dans le box. Il a fallu que les gendarmes le retiennent. Il a joué véritablement la comédie pendant 3 jours. Et c'était un peu détestable.
Cécilia Catalano, rédactrice en chef chez Tony Comiti, et vous avez réalisé un épisode de l'émission Indice sur cette affaire. Bon, le verdict, il n'y a pas de surprise. Pour Caillez, l'histoire, elle était déjà un peu écrite.
Le verdict, il est juste aussi. On est quand même sur un violeur multirécidiviste. Alors, au-delà des atrocités qu'il a fait vivre à Audrey, encore une fois, rappelons-le, c'était une jeune femme de 24 ans, une chouette fille, en fait, souriante, très chaleureuse, et qui n'a eu de cesse de faire preuve d'humanité vis-à-vis de lui. Elle l'avait même défendu dans le cadre je crois qu'il s'était introduit chez une voisine.
Chez une voisine, etc. La voisine avait porté plainte.
On a vraiment, s'il s'en est pris à elle, il s'est pris à une jeune femme, il s'en est pris à une jeune femme qui avait été agréable avec lui, et ça, voilà.
Et donc, effectivement, ce verdict, il est absolument sans surprise. Alors, Maître Liénard, il dit, il prend du plaisir. C'est vrai qu'il y a cette ambiguïté. Maître, effectivement, il est toujours dans ce registre, finalement.
Et d'abord, dès le début du procès, il a demandé la perpétuité. Il a demandé à être condamné au maximum. Lui. Les premiers mots, c'était pour demander à être condamné au maximum. Donc la question du verdict ne se posait quasiment pas, parce qu'il assumait parfaitement la culpabilité, et il disait lui-même que s'il ressortait, il recommencerait. Donc c'était assez clair pour les jurés que l'issue serait au maximum. En revanche, la manière de faire est vraiment, vraiment déroutante et détestable, notamment lorsqu'il dit que Audrey, alors qu'elle était sous la contrainte d'une arme, les pieds et les mains liés, sous les coups, sous les tortures sexuelles, lui aurait dit « tu me fais penser à mon père ».
Oui, c'est ce
son père qui était décédé quelques années auparavant. Ça, c'est véritablement de la souffrance infligée vraiment gratuitement. Et le fait de le dire comme ça, c'est encore distiller un peu de souffrance. Et je pense que véritablement, il prend plaisir à faire souffrir les gens.
Eh bien, un mot sur les victimes aussi collatérales, c'est-à-dire la famille. Comment est-ce qu'elles ont vécu tout ce procès?
Ce procès, ça a été une...
Parce que tout est dit au procès, tout, aux assises.
Alors, tout est dit, sauf la réalité des faits, puisqu'il nous l'a caché. Il n'a pas dit les violences, il n'a pas dit les coups, il n'a pas dit les somnifères. Il a refusé de dire plein de choses. Et alors que tout ce que lui demandait la famille, c'était « dites-nous ce que vous lui avez fait ». Dites-nous la vérité. Est-ce qu'elle a souffert? Est-ce qu'elle n'a pas souffert? On a besoin de savoir ça. Et là-dessus, il ne nous a pas répondu. Il nous a répondu par cette phrase « Tu me fais penser à mon père ». Pour la famille, ça a été un deuxième crime. Le premier crime, c'était la mort d'Audrey. Et le deuxième crime, c'était ces 3 jours d'audience qui étaient dramatiques, terribles.
Le condamné retrouve une prison dont il ne sait pas s'il en sortira un jour. Seize ans après la condamnation de Jean-Luc Caillez, ce dernier est toujours en prison. Lors du procès, son avocat, maître Jacques Bourdet, avait indiqué que son client allait être condamné, mais qu'il méritait d'être réintégré dans la communauté des hommes. La famille d'Audrey Joanet vit depuis des années avec cette tragédie. Après le procès, la maman Marie-Antonia Joanet confiait « J'aurais aimé savoir pourquoi il a fait ça », ajoutant « J'ose espérer qu'il ne va pas sortir ».
La justice a fait son travail. C'est ce que j'attendais, bien sûr, qu'il puisse pas recommencer. Maintenant, je vais essayer de faire mon deuil, si on peut appeler ça comme ça. Et je pense souvent à ma fille, qui a dû vivre à calvaire pendant 15 heures. Les derniers jours d'une petite jeune fille de 24 ans. Les dernières heures. C'est assez difficile pour moi.
La maman, Marie-Antonia Joanet, la mère d'Audrey, donc... C'était sur RTL et c'était juste après le verdict de la condamnation de Jean-Luc Caillez. Maître Laurent Franck Liénard, vous l'avez accompagné, cette famille, pendant une bonne partie de l'instruction et puis ensuite pendant tout ce procès, avec évidemment la maman et puis la sœur de la victime. Aujourd'hui, vous avez encore des contacts? Elle porte toujours ce deuil et ce poids de cette affaire?
Elles porteront toujours le cercueil de leur fille. Hein. Vous savez, le vrai cercueil des morts, c'est le cœur des vivants. Donc, chaque jour, elles y pensent. On n'a plus de contact parce que je représente cette aventure judiciaire pour elles.
Bien sûr.
Et donc, les familles qui sont très endeuillées, souvent prennent beaucoup de distance avec leur avocat également.
Ce qui est normal.
Ce qui est normal, parce qu'à un moment, il faut tourner la page. Et moi, vous voyez, je ne vais pas vers elles. Je pense à elles souvent, mais je ne vais pas vers elles parce que justement, je les laisse maintenant vivre leur deuil.
En tout cas, cette émission, elle est dédiée évidemment à Audrey Joanet, parce que c'est la seule victime dans cette affaire, avec sa famille évidemment, mais il n'y en a pas d'autres. Cécilia Catalano, rédactrice en chef chez Tony Comiti, on a suivi un petit peu le parcours de cet homme, Jean-Luc Caillez. Est-ce qu'il a dit qu'il recommencerait peut-être? Est-ce qu'il y avait d'autres cibles possibles? On a dit qu'il avait préservé aussi peut-être de l'ADN pour agir à nouveau.
Alors, tout à fait, c'est Maître Liénard, on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il avait récupéré un deuxième préservatif usagé, donc dans les poubelles de l'immeuble, et il comptait s'en servir très bientôt, car contre une autre habitante de l'immeuble qui était, et ça c'est vraiment, pour moi c'est un deuxième crève-cœur, en plus c'était la véritable victime de Jean-Luc Caillez. En réalité, Jean-Luc Caillez, celle sur laquelle il fantasmait réellement. C'était une hôtesse de l'air qui vivait dans l'immeuble, qui avait donc cet amant. C'est bien hein, ça. Hein, et c'était elle, sa cible principale.
La première cible.
Sa première cible. Et on peut, en relisant le dossier, en refaisant le match hein, d'une certaine manière, ce qu'on comprend, c'est qu'Audrey Joanet, en fait, c'était la répétition avant ce passage à l'acte qui réellement était son climax à lui. Donc c'est assez terrible. Tout à l'heure, vous parliez de la préméditation qui n'a pas été retenue. C'est vrai que dans ce contexte-là, moi, j'ai du mal à comprendre.
Mais tout le monde a du mal à comprendre.
Pourquoi la préméditation?
C'était évidemment pour assassinat qui devait être renvoyé devant une cour d'assises, je pense. Mais bon, ça, c'est une autre histoire et la justice a tranché. Donc, il y avait peut-être ces autres cibles. Est-ce qu'il était impossible à détecter Jean-Luc Caillez une fois sorti de prison? Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de suivi. Judiciaire, on laissait sortir les gens comme ça. Est-ce que aujourd'hui ça serait possible encore?
Aujourd'hui, on mettrait du suivi socio-judiciaire, on mettrait des obligations de soins, on mettrait pas mal de choses dessus, mais ça n'empêche pas la récidive, ça n'empêche pas les nouveaux passages à l'acte. Les gens qui ont des personnalités comme ça sont extrêmement difficiles à cadrer, à canaliser, autrement que par la détention. La détention sert à ça, la détention sert à extraire ces gens de la société de manière à ce qu'ils ne fassent pas de mal, parce que ils ne sont pas... nous ne sommes pas en capacité de nous défendre contre ces gens-là, qui passent à l'acte de manière totalement, totalement imprévue, imprévue pour nous, pas pour eux. Eux, ils ont leur calendrier qui n'est pas le nôtre, et c'est très très difficile de se protéger de ce type de personnalité.
Cécilia Catalano, il voulait absolument faire parler de lui, Caillez. Il y a ce côté mégalomaniaque aussi qui est apparu. Les psys le disent, hein, il veut être au centre du jeu.
Effectivement, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a du mal à reconnaître certains actes, et notamment les actes de torture. C'est-à-dire qu'il y a une notion narcissique très forte, il est très égocentré, et donc reconnaître des actes de torture, ça provoquerait un effondrement narcissique qui serait trop fort pour lui. Je voulais juste compléter ce que disait Maître Lénard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est plus possible, c'est d'embaucher un gardien d'immeuble sans avoir accès à son casier judiciaire. Ce qui était le cas à l'époque dans le privé. Alors, dans tout ce qui était office HLM, on demandait le casier judiciaire. Parce que,
mais
gardien d'immeuble,
privée...
il a quand même accès aux clés. Hein. Il a quand même accès à beaucoup de choses dans un immeuble. Donc, effectivement, ce drame, le calvaire d'Audrey, aura au moins permis ça. C'est-à-dire que cette profession-là, qui est quand même une profession, bon, pour quelqu'un où il y a un potentiel de récidive en termes de viol, voilà. Maintenant, il y a quand même des vérifications qui sont faites.
Parce que Cécilia Catalano, à l'époque, ça a fait beaucoup de bruit, cette histoire, hein, notamment sur la récidive, etc. Alors, il y a beaucoup de dossiers.
Tout à fait.
Et celle-là, je crois que les pouvoirs publics
s'en sont emparés, et effectivement, par rapport aux remises de peine, et ça a aussi permis donc, de changer la loi en termes de législation pour les recrutements, et ce qui est un enjeu majeur dans la détection et dans le suivi aussi des auteurs de violences sexuelles.
Alors ça, c'est plutôt positif, parce que les choses ont quand même fini par évoluer. Maître Laurent Franck Liénard, la maman, elle dit « J'aurais aimé savoir pourquoi il a fait ça ». On a l'impression d'entendre ça 100 fois dans les bouches des familles de victimes. Et on comprend, évidemment. Pourquoi la réponse lui a été confisquée?
Oui, la réponse lui a été confisquée. Ces victimes, elles ont besoin de sens. Elles ont besoin de réponses très concrètes, de manière à pouvoir tourner la page et avancer. Et tant qu'elles n'ont pas pu tourner la page, eh bien elles partent avec leur douleur. Et cette famille, elle est partie avec sa douleur.
Merci infiniment, Maître Laurent Franck Liénard et Cécilia Catalano, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Marie-Lou Goyer, réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.